Bonjour Maryse Vuillermet.
Bonjour William.
Merci de nous accorder cet entretien pour parler de votre dernier roman paru dans la collection Rouergue Noir aux éditions du Rouergue. Je n'ai volontairement pas dit le titre de ce roman parce que je ne pense pas que nous le disions de la même façon. Alors je vous laisse donc le révéler.
Alors le titre c'est La Pia.
Voilà. Et nous, nous disons La Piaz, puisqu'en occitan, vous le savez certainement, nous prononçons toutes les lettres dont le Z final, enfin qui devient un S, mais voilà. Mais avant de parler de ce roman, je vais vous présenter à nos auditrices en quelques mots. Maryse Vuillermet, vous êtes née dans ce Jura qu'on retrouvera au cœur de votre roman. Après des études littéraires, vous avez été professeur de français avec un premier poste en Algérie, puis vous avez cherché à vous rapprocher de vos racines en passant par Dunkerque, Saint-Étienne, puis Lyon, où vous vivez, je crois.
Oui.
Vous avez écrit de nombreuses monographies à propos du monde ouvrier. Vous aviez d'ailleurs soutenu une thèse sur ce sujet. Et aussi à propos des travailleurs transfrontaliers de ces régions qui vous habitent ou qui vous hantent peut-être.
Les deux.
Puis viennent d'autres envies d'écriture. Un premier roman noir, Seulement les oiseaux sur un livre, paru en 2020. Puis en 2025, La Pia ou La Piaz. Et là, c'est la consécration. Comment s'est accomplie cette transition vers le roman noir?
Écoutez, je lis beaucoup depuis toujours des romans policiers ou romans noirs. Je me suis beaucoup intéressée à ce qu'on appelle le néo-polar, hein, Danax, Jean-Patrick Manchette, Dominique Manotti, enfin. Et je trouvais que ce roman noir, beaucoup plus social, voire sociologique, et qui parfois exprime une révolte, une douleur, correspondait plus à ce que j'avais envie de dire. Donc peu à peu, alors j'en ai écrit que j'ai pas publié, hein, j'ai fait des essais, et puis ce genre s'est imposé peu à peu, comme ça.
Le moment est venu pour raconter, pour plagier et reprendre la première phrase de votre roman.
C'est ça. Je suis intéressée par le roman noir, mais en premier, je suis surtout passionnée du Haut-Jura et j'ai envie de raconter des histoires du Haut-Jura. Donc là, j'ai mêlé ces deux envies et ces histoires, ce sont des histoires que je porte depuis ma jeunesse, hein, depuis très très longtemps, qui donc sont fortes, puisque je les ai encore en tête. Et comme je le dis dans le prologue, effectivement, le moment est venu de raconter. J'ai ce besoin de poser sur le papier, d'écrire ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai compris ou mal compris de cette époque. Et voilà.
Venons-en donc au roman. On est au milieu des années 70.
Oui.
Le père Satin, avec sa femme et sa belle-fille, Arlette, sont en train de sarcler les patates et voient arriver dans une deux chevaux fourgonnette bleue Isabelle et Tony, deux jeunes hippies, qui pourraient d'ailleurs très bien revenir d'une manifestation sur le Larzac. C'est la même période. Donc ce couple a acheté la loge d'estive de la Louvière et s'y installe. Alors si le père Satin les accueille avec curiosité puis avec bienveillance, ce n'est pas le cas de Bernard. Bernard, c'est l'un des trois fils Satin, celui qui reprend la ferme. Pour qui Isabelle et Tony vont repartir dès les premières neiges. Pour vivre ici, il faut y être né, dit-il à son père. Alors oui, ils partiront, Isabelle avant le deuxième hiver et Tony un peu plus tard, laissant là leurs utopies, leurs rêves, quoi. Puis commence une presque nouvelle histoire qui, avec l'arrivée de deux personnages, la serveuse au bar-restaurant La Frasse et le troisième fils Daniel qui sort de prison, se révèlent les tensions dans la famille Satin. Comment vous est venue l'idée de cette histoire que vous nous racontez dans La Pia?
Comme je l'ai dit, c'est un mélange d'histoires que j'ai connues jeune. Donc moi, je suis pas originaire de la montagne, hein, je suis originaire de la vallée, d'une vallée assez profonde et ouvrière, donc Saint-Claude. Et quand j'avais une vingtaine d'années, je m'apprêtais à partir pour étudier et puis pour voyager aussi, je rêvais de voyager. Et c'est là qu'on a vu arriver d'autres jeunes comme nous, mais qui avait une utopie, comme vous l'avez dit, qui rêvait de s'installer dans un endroit d'où nous rêvions, nous, de partir. Donc, déjà, ce paradoxe nous interrogeait. Et puis, ils amenaient des rêves, des façons de vivre complètement libertaires, complètement libérées. Ils nous aient rêvé. Et en même temps, on se disait, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent là, dans cet endroit perdu au lieu de partir tout de suite, d'une certaine façon, on les a observés, un petit peu comme le Père Satin, on les a aimés, on a aimé faire des fêtes avec eux. Et en même temps, moi, je connais très bien la façon de penser du Père Satin. Ce sont mes grands-parents, c'est peut-être aussi mon père. Et je voyais très bien qu'il y avait forcément une confrontation qui allait arriver, parce que c'était des modes de vie trop différents, et les modes de vie des hippies, comme on les appelait, interrogeaient de façon assez violente la façon de vivre des vieux et de Bernard, par exemple, le fils qui va reprendre l'exploitation, c'est-à-dire des gens qui ont toujours travaillé, qui n'ont jamais pris un moment de repos, de plaisir, et qui n'ont comme rêve que de transmettre l'exploitation. Et là, voir arriver ces jeunes qui ne font rien, qui ne font que se consacrer à la jouissance dans la nature, d'une certaine façon, ça ne peut pas marcher. C'est forcément une source de conflit. Et donc, j'ai raconté cette histoire, et puis j'ai exacerbé, bien sûr, de façon fictionnelle, le conflit, quoi. Jusqu'au drame biblique, d'une certaine façon.
Je faisais allusion au Larzac, c'est quelque chose aussi qu'on a vécu. Alors certains, effectivement, sont restés, d'autres sont partis. Et puis voilà, et puis effectivement, il y a eu quand même, je dirais presque une symbiose, puisque des gens qui sont restés sont devenus des acteurs importants de notre territoire.
Dans le Haut-Jura aussi, hein, certains sont restés. Par exemple, les gens qui sont arrivés, je fais allusion aux gens qui arrivent avec des chiens de traîneau, bon, ils y sont encore et ils ont créé une activité qui marche très bien. D'autres ont créé des fermes, hein, enfin, ont repris des fermes un petit peu comme Bernard pense à le faire, mais en bio. Après, si vous voulez, c'était assez différent parce que la filière lait, le comté, se vend bien. Donc, l'agriculture de montagne, en tout cas l'élevage des vaches, ça marche bien. Donc maintenant, on a effectivement une possibilité d'en vivre correctement. Et puis, ce qui a changé aussi, c'est le tourisme. Oui. Donc, je fais allusion, dans la Pia, c'était
c'est vraiment le début, oui. Ouais.
Et là, aujourd'hui, les citadins... pas comme des hippies, mais en tout cas cherchent pour quelque temps, pour les vacances, ces espaces sauvages et en sont friands, quoi.
Oui, pas pour les mêmes raisons, pas pour y vivre, en tout cas. Voilà. Alors, ce qui m'a particulièrement séduit dans La Piaz, vous avez eu un coup, je dis La Piaz, un coup La Piaz, hein, je vais essayer d'être consensuel, c'est que je me suis retrouvé dedans. Alors, si on vit en zone rurale, si on a la soixantaine, comme moi, on est en capacité de mettre un nom sur chacun des personnages et de comprendre chacune des situations que vous décrivez. Mais c'est surtout la façon dont vous nous tenez en haleine pendant plus de 250 pages, alors que la partie dramatique biblique, comme vous dites, est concentrée dans les 10 dernières pages, en fait. Donc, plus qu'un roman noir, j'ai envie de dire, c'est un véritable thriller que vous avez écrit.
Alors, c'était pas tout à fait conscient. L'intrigue, elle devait être installée sur la longueur, parce que dans la campagne, dans la montagne, le temps est différent. Les choses prennent beaucoup plus de temps pour s'installer. Donc, j'ai pris mon temps. Mais en même temps, dès le début, on sait que ça va mal se terminer. Le Père Satin le dit, Madame Satin aussi, qui a été une fine observatrice, le dit. Les vieux sentent les choses. Donc c'est ça qui installe cette atmosphère d'inquiétude. Les vieux, les gens du coin sont sur le qui-vive. Ils savent que quand ça tombe, ça fait très très mal. Ils savent que leurs vies sont fragiles au milieu de ces immensités, de ces tempêtes de neige. Donc, c'est à la fois un thriller parce que, bien sûr, il va arriver quelque chose de terrible, mais c'est aussi, je trouve, ce que j'ai voulu faire, c'est la représentation de ce monde où on s'attend toujours au pire. Vous voyez ?
Oui.
C'est installé dans leur psychologie, quoi.
Enfin, oui, oui. On parlera de la force de la nature aussi, et en vous lisant, moi j'ai pensé à un livre qu'on a découvert l'année dernière d'un jeune écrivain sénégalais, Makodou Atolodé, Étincelle rebelle, où il y a une espèce de magie, de magie de la nature aussi qui intervient et qui fait d'une histoire qui, à la base, et pour votre histoire à vous, c'est une histoire familiale.
Mm-hmm.
Et moi, ce qui m'a, enfin, en tout cas, intéressé tout le long du livre et séduit, c'est que effectivement, on attend toujours. Et puis, on sait qu'il va se passer quelque chose, mais on attend. Et moi, il y a beaucoup de livres que j'ai abandonnés comme ça. Mais celui-là, on va au bout parce qu'il y a toujours des petites péripéties, des petits mystères. Là, il y a des vipères, il y a des abeilles. Enfin, on en reparlera tout ça. Vous avez choisi une double narration.
Oui.
Donc, celle du père Satin et celle du narrateur, ou plutôt de la narratrice.
Oui. Alors la voix du père Satin, ça c'est une voix que dès le début j'avais en tête. Cette voix de sage, cette voix de personne d'expérience. Et puis je voulais montrer aussi des gens qui vivent dans des endroits très isolés, mais qui sont très ouverts, qui sont très curieux, qui sont très fins. Donc ça, j'avais cette voix. Et puis, comme je vous l'ai dit, je me sentais aussi très proche d'Isabelle, de son rêve, et en même temps, de rêve qui vient se fracasser quoi sur la réalité, parce que elle a peur de tout, elle craint tout le monde, elle n'arrive pas à s'intégrer, elle aimerait, mais elle ne peut pas.
Et elle manque aussi beaucoup de chance.
Et elle manque de chance, elle est toujours là où il ne faut pas qu'elle soit, quoi. Enfin, il y a des gens comme ça qui ont un petit peu la poisse, comme on dit. Et donc, je me sens très proche d'Isabelle aussi, donc j'ai mis les deux, quoi. Les deux personnages qui me sont le plus proches et puis qui sont le plus différents finalement.
Robin Cook, notre maître à Polar 20 et compagnie, les gens qui nous écoutent savent pourquoi.
Oui.
Dans Mémoire vive, son autobiographie dit ceci en parlant du roman noir. L'auteur doit faire partie intégrante des personnages et vice-versa. C'est vraiment ce que j'ai ressenti à la lecture de votre histoire.
Ah ben merci de cette citation, parce que c'est vraiment, oui, c'est ça, ces personnages, c'est moi, quoi.
Alors, oui, vous nous aviez dit, donc vous auriez été un petit peu Isabelle, un petit peu...
Voilà, un petit peu Isabelle, beaucoup même Isabelle,
ouais.
et en même temps le père Satin.
Et le père Satin aussi, ouais.
En général, c'est contradictions qui font écrire, hein, on cherche à soi-même à éclairer des zones d'ombre, et là, en quelque sorte, je me tiens des deux côtés du précipice, quoi, des deux côtés de la faille. Je sais que quelqu'un va tomber, mais j'essaye de comprendre les deux côtés, quoi.
Vous avez partagé le roman en trois parties ou trois périodes.
Oui.
Alors, le titre de la première, c'est Hippie, on commence à comprendre pourquoi. La seconde, Cassure, où les relations commencent à se fracturer, justement, entre les personnages. Et le troisième, Retour de branche. Pourquoi un titre si cinglant comme un retour de branche qu'on prend dans la figure?
Alors, retour de branche, c'est un terme de bûcheron, hein, que vous expliquez bien. C'est violent, hein, c'est quand on coupe un arbre et que une branche cingle le visage du bûcheron ou une partie de son corps. C'est un petit peu, c'est l'histoire de ce livre, c'est-à-dire que c'est la nature ou le destin, enfin ce que vous voulez, mais il y a comme une vengeance du destin qui frappe, quoi, enfin, et violemment, parce que la fin est violente et la fin est tragique, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce terme.
D'accord. Il y a un personnage qui n'en est pas réellement un, mais qui participe énormément à l'intrigue, je trouve, c'est la nature.
Oui.
C'est celle du Jura qui ressemble beaucoup à la nôtre. J'ai envie de dire que le Jura, c'est les Grands Causses avec de la forêt et de la neige en hiver, en fait.
Absolument, absolument. Et les vaches au lieu des moutons, en fait.
Ah, des brebis.
Des brebis, oui.
L'occasion de souligner la magnifique couverture du roman avec ce sommet enneigé à la fois fascinant et inquiétant. Très belle couverture, comme toutes celles que nous offre Rouergue Noir, d'une manière générale. La nature avec ses habitants, les vipères qui viennent à plusieurs reprises, puisqu'on a donc la belle-fille qui, je ne sais pas si on peut dire, qui collecte ou qui...
On dit chasseuse de vipères ou chasseur de vipères, enfin,
voilà.
On disait, parce que c'est une activité qui a disparu, mais qui existait tout à fait dans ces années-là. Hein,
pour que les labos puissent utiliser le venin. Ben, les abeilles qui vont s'acharner sur cette pauvre Isabelle, qui, je le disais tout à l'heure, n'a vraiment pas de chance. Il y a le climat aussi, la neige, les congères, et puis la formation géologique du Jura, les falaises, les précipices et le fameux Lapiaz. J'ai trouvé que vous aviez une écriture aussi très naturaliste. Et nous partageons visiblement de l'intérêt pour un auteur qui est Frank Bouys, que citez en exergue. Et qui, dans ses romans, Plateau, Glaise ou encore Grossir le ciel, crée cette même ambiance autour de l'histoire que celle que vous avez pu aussi créer. Alors, nous écoutons Kat qui lit l'extrait dans lequel vous décrivez ce fameux Lapiaz.
Peu à peu, leur était apparu, d'abord à travers les branchages, puis à découvert, en pleine lumière, une zone assez vaste, d'un hectare à peu près, d'immenses dalles claires, tirant sur le gris, arrondi, vaste et fissuré par endroits de larges crevasses qu'on devinait profondes. Saisi, sans se concerter, il s'était arrêté et était resté un moment à contempler cet étrange paysage, un peu lunaire, à la fois dévasté par les trous, les ciselures, et vivant, parce que des buissons bas, en bouquets noirs, jaillissaient des failles, et ça et là, des plaques de lichen jaune ou brune créaient des taches et des dessins. Les failles droites, courbes, en zigzag, se croisaient, se rencontraient, repartaient, formaient tout un tracé fantastique qu'on avait envie de suivre des yeux longtemps. Entre les découpes, des lamelles plus hautes, un feuilleté dantesque, un relief étrange, une curiosité. C'était comme du temps visible, des millénaires de creusement, d'érosion, d'écoulement. L'eau, la roche, en lutte, depuis une éternité. Tony s'est baissé, a ramassé une pierre et l'a lancée. Elle a roulé sur une dalle et puis, brusquement, a plongé et disparu. Ils l'ont entendu cliqueter longuement sur les parois, ensuite, le son a diminué et s'est perdu. Pas un bruit de voiture, pas une voix humaine, des cris de corbeaux qui se détachaient, plus puissants sur le fond de gazouillis, et très loin, très espacés, des sons assourdis de cloches de vaches. Parfois, un craquement de branches, les raclements de leurs chaussures sur les pierres. Une brise qui agitait les branches de noisetiers. Une très légère appréhension étreignait Isabelle. Mais un sentier bien marqué traversait la zone. Il le suivait sans s'en écarter, ne pouvant s'empêcher de scruter encore les ouvertures, les trous, les lignes de brisure, leur parcours cassant la roche, net et courant loin, vers le haut. C'était fascinant.
C'était un extrait de Lapiaz de Maryse Vuillermet. Pour les habitants d'Écosse, vous avez très certainement pensé aux failles des Canalettes, un site aussi fantastique que celui du roman duquel le mystère peut surgir à tout moment. Je lisais votre livre, c'était pendant ces périodes de vacances, alors que des agriculteurs bloquaient des routes s'opposant à l'abattage de troupeaux. Et dans Lapiaz, le père Satin, qui a eu un troupeau de vaches, se confronte à son fils Bernard et va jusqu'à le supplier d'en garder ne serait-ce qu'une. Ce rapport à l'animal vous semble important. Il faut peut-être expliquer pour celles qui n'ont pas encore lu votre livre la raison de ce conflit entre père et fils.
Eh bien, comme vous l'avez dit, le père Satin a son troupeau de vaches qu'il a créé. Il l'a hérité bien sûr de ses parents, mais un troupeau, les éleveurs savent qu'on le travaille, qu'on travaille la génétique, qu'on garde les meilleures bêtes, qu'on vend les bêtes un peu vicieuses. Enfin, c'est toute une vie, un troupeau. Et puis, donc il veut remettre sa ferme à son fils, qui sera le plus apte à la reprendre. Sauf que Bernard, lui, c'est pas vraiment un éleveur, ni un paysan, c'est un homme des bois, il veut continuer son activité de bûcheronnage. Alors il veut bien garder les terres de son père, mais pour mettre des génisses l'été. Donc il n'y aura plus de bêtes à l'étable. Et ça, le père Satin, il en est... vraiment très douloureusement frappée. Enfin, c'est un deuil quasiment impossible. D'autant plus que lui, il a ses, comment dire, ses angoisses, ses assez profondes.
Oui, il a une relation particulière avec une de ses vaches,
oui,
d'ailleurs.
Et quand il va pas bien, il va dans l'étable. Et on dit l'écurie dans le Haut-Jura, mais enfin, il va dans l'étable et il parle d'une certaine façon à ses bêtes, ou en tout cas, il est rassuré, il est réconforté par leur odeur, par leur présence, par leur calme, par leur familiarité. Il les connaît depuis qu'elles sont nées. Et il ne peut pas imaginer que son écurie va être vide, quoi. Enfin, c'est comme si sa maison était vide, si son cœur était vide. Enfin, c'est vraiment cruel. Et effectivement, moi, j'ai repensé aussi, quand j'ai vu ces abattages d'animaux, à ce que ça pouvait faire à ces éleveurs, qu'on leur abatte des bêtes vivantes, en bonne santé. Et puis, j'ai entendu plusieurs fois des éleveurs qui disaient justement ça, que leur troupeau, c'était pas que des bêtes, c'était quelque chose qu'ils avaient créé d'année en année, qu'ils avaient formé, quoi.
Oui, ces abattages qui ont même poussé certains au suicide, quoi.
C'est, oui, hein, ouais. Oui.
Parce que j'ai peur de trop en révéler, en fait.
Peut-être
arrêter de parler de la Piase. Vous avez de nouveaux projets d'écriture ?
Oui, je suis en train d'écrire, là, mais c'est toujours difficile d'en parler quand le projet n'est pas complètement... pas abouti, mais enfin, en tout cas, complètement prêt dans sa tête avant d'écrire. Donc, ça se passera dans le Haut-Jura, mais plutôt dans la vallée, donc dans une ville comme Saint-Claude. Et je vais revenir sur des anciennes histoires, hein, puisque c'est des histoires de la Seconde Guerre mondiale, mais qui ont une répercussion aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment.
D'accord. Je ne sais pas, c'est une question peut-être intime. Ça fait quoi d'avoir eu ce succès ? Je parlais beaucoup de monographie. J'ai l'impression que vous avez effectivement... vous êtes connu pour cela.
Oui.
Vous avez une réputation sur un plan peut-être plus universitaire, historienne.
Oui, c'est ça, plus récit de vie. Et puis, il y a un thème qui... Enfin, c'est un thème différent, mais j'ai beaucoup parlé aussi de l'émigration. L'émigration des Italiens et puis surtout du monde ouvrier.
Ouais.
Donc là, c'est le monde paysan, quoi. C'est un peu différent.
Mais c'est un roman noir, et là, vous êtes rentré de plein pied dans la grande famille du roman noir.
Alors, je suis moi-même étonnée, hein, franchement, de l'accueil de ce roman. Je ne pensais pas qu'il aurait une résonance aussi... Par exemple, vous m'appelez du Larzac et ça vous parle très fort au Larzac. J'ai eu des gens qui m'ont parlé depuis les Pyrénées, enfin, dans les Alpes. Donc, je ne pensais pas qu'il aurait cette résonance nationale, déjà, premièrement. Et puis, j'ai écrit une douzaine de récits, romans, etc. C'est la première fois que j'ai de tels retours. Donc, je suis très contente et puis étonnée, comme je vous l'ai dit. Et puis, en même temps, quand on écrit, j'ai écrit depuis très, très, très longtemps, avec assez peu de succès, si c'est pour employer ce mot, et puis qu'un jour, le succès arrive, on se dit, bah, c'est une récompense, quoi. Enfin, c'est une belle récompense, voilà.
Ouais, mais elle est méritée.
Un bel accomplissement de beaucoup de travail, de beaucoup d'hésitation, de beaucoup de militantisme d'une certaine façon aussi, parce que l'écrivain, en général, il prend sa besace et son livre, il va dans des petites librairies, il va dans des rencontres où il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y va. C'est comme ça que moi, je conçois mon rôle et que j'en suis heureuse. Mais c'est du courage, quoi. En fait, il faut y croire, quoi.
J'imagine. Voilà, nous arrivons à la fin de cet entretien. Pour celles et ceux qui souhaiteraient encore mieux faire connaissance avec vous, Maryse, je les invite à écouter le podcast « Un roman noir au cœur du Jura » de l'émission Le Book Club sur France Culture, où vous avez échangé pendant près d'une heure avec Marie Richeux. Ça fait aussi partie de la consécration, je pense. Nous mettrons le lien sur la page de notre émission. Merci Maryse pour cet échange que vous nous avez offert et j'invite nos auditeurs et auditrices à découvrir l'Appia ou l'Appiaz de Maryse Villermet, paru chez Rouergue Noir, et à y trouver le même plaisir que j'ai eu à le lire.
Alors merci beaucoup William de cette interview et puis bien sûr moi je remercie chaleureusement du fond du cœur et mille fois mon éditrice Nathalie Desmoulins, les éditions du Rouergue et puis tous les libraires et tous les animateurs de radio comme vous qui font vivre ce livre.
Don't care, but I remember us riding in my brother.